les jardinières.
Il n'est jamais trop tôt pour s'occuper de ses végétaux. La preuve, nous sommes là. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Olivier Ribaud est là aussi. Bonjour Olivier.
Et bonjour à vous.
Olivier Ribaud, vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Merci d'être avec nous ce matin.
Et dans la suite des jardinières, nous parlerons de botanique et Olivier répondra à vos questions. Soyez les bienvenus chez les jardinières, c'est jusqu'à 8h.
Les jardinières.
Le soleil est de retour partout, hein, et pas seulement dans les hauteurs, et les températures remontent aussi. Ça donne envie de passer du temps en extérieur. Alors Olivier, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ces prochains jours ?
Alors oui, comme tu l'as dit, ça donne envie d'y ressortir parce que la météo a bien changé, le sol est devenu de nouveau praticable, je dirais, car il est pas beaucoup gelé ou en tout cas pas dans les plaines. Donc il y a des possibilités justement de refaire des travaux comme par exemple de planter des arbres à racines nues, donc le arbre fruitier, ou déplacer des plantes ou justement arracher une plante et puis la replanter à un autre endroit. Des divisions de vivaces, ça se fait aussi beaucoup maintenant parce que il faut quand même penser que la végétation va commencer de repartir aussi. On verra les premières plantes qui vont sortir de terre, comme par exemple les perce-neiges. On en a déjà vu quelques-unes qui sortent déjà, donc la végétation repart. Et j'aime bien prendre des petits exemples de ce que j'ai vécu dans la semaine au travail. J'aurais peut-être un petit conseil à donner à toutes ces personnes qui ont rentré des plantes pour hiverner dans des vérandas, dans des caves ou dans des garages. Ce serait temps, parce qu'on les a mis, certains les ont mis très tôt, ce serait temps d'aller les surveiller un peu, de regarder ce qui se passe, parce que j'ai vécu cette semaine chez un client où c'est que ça a été envahi d'araignées rouges et même d'araignées jaunes assez particulières, où c'est qu'il y a des fortes attaques justement parce qu'on a mis ces plantes dans des endroits chauds, secs, très peu humides. Donc il faut vraiment surveiller ces arrosages et puis ces petits parasites qui viennent envahir ces plantes. On va arriver la semaine prochaine dans une période où c'est que le climat est un peu plus doux. Mon conseil a été de donner à cette personne de mettre cette plante un peu à la pluie les après-midi pour s'il pleut, ou bien un petit peu les mettre dehors puis bien les bassiner pour que ces parasites, une grande partie, puissent déjà avoir eux un coup de froid pour déjà peut-être mourir et puis après sévir pour le reste. Donc faites attention, ces plantes qui sont dans ces zones un peu chaudes et sèches, derrière une fenêtre où c'est que le soleil tape fort parce qu'il est bas, qu'on retrouve beaucoup beaucoup de plantes qui sont vraiment pas dans des bons états sanitaires pour le moment.
Merci Olivier, vous êtes notre invité jusqu'à 8h. Et en seconde partie d'émission, vous répondrez aux questions de nos auditeurs, des questions que l'on attend par téléphone au 0900 70 20 20. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en remplissant le formulaire disponible sur notre site, ou alors simplement nous écrire un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Après la pause musicale, Olivier, vous allez nous expliquer la différence entre des plantes monoïques et des plantes dioïques.
7h, 8h, les jardinières.
On va parler un peu de botanique ce matin, et Olivier, vous allez nous expliquer ce que veulent dire les termes dioïque et monoïque. Alors, dit comme ça, ça peut faire peur, mais grâce à vos explications, d'ici la fin de l'émission, ces deux mots n'auront plus de secret pour nous. Pour commencer, Olivier, on va faire un peu parler de définition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une plante monoïque ?
Oui, alors justement, chaque fois qu'on discute un peu entre nous, on essaie de trouver des sujets. On en a eu un à la dernière émission radio. C'est quelque chose qui est pas connu, je dirais. Ces mots sont vraiment pas connus du tout. Quand on fait un peu de botanique, comme tu l'as cité, c'est vrai que ça vient un petit peu en avant. Et puis, c'est assez simple en fait, parce que c'est juste une dénomination. Quand on dit monoïque, comme tu viens de le dire, c'est mono, ça veut dire que sur une plante, on va retrouver les deux organes, dont les organes mâles et les organes femelles, qui sont se retrouver sur la même plante, sur le même végétal, je dirais.
Et puis alors, qu'est-ce qu'une plante dioïque ?
Eh bien, bien sûr, la plante dioïque, c'est à l'inverse, c'est la plante où c'est qu'on va retrouver qu'un seul organe qui va être productif. Donc, on va retrouver que des plantes mâles et retrouver que des plantes femelles. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont différentes. Donc, c'est assez simple. Donc la plante monoïque, elle a les deux sexes, et la plante dioïque, elle a qu'un seul sexe sur une plante.
Et pour se faire une idée, Olivier, avez-vous quelques exemples de ces plantes monoïques à nous donner? Donc ces plantes qui ont deux organes sur la même plante, c'est juste?
Oui, alors justement, les plantes monoïques sont quand même la grande, grande partie de nos végétaux sur cette terre, je dirais carrément, parce que on peut prendre des exemples dans toutes les fleurs. La rose, pour la citer, une des fleurs les plus connues qu'on va à peu près voir tous passer d'ici une quinzaine de jours lors de la Saint-Valentin. La rose est une plante monoïque, donc on va y retrouver sur la même fleur, on va retrouver les étamines, où c'est qu'on trouvera le pollen, et on va trouver l'ovaire et le pistil, où c'est que c'est la partie femelle. Donc toutes les fleurs ont cette particularité d'avoir ces deux organes, donc qui seront monoïques, et on va aussi retrouver ça sur tous les grands arbres, les grandes plantes qu'on trouve dans nos forêts, pour citer le sapin, le hêtre, le chêne, sont des plantes qui ont des fleurs où c'est qu'on retrouve les deux organes sur la même fleur et la même plante.
Puis à l'inverse, est-ce que vous avez aussi des exemples de plantes dioïques?
Oui, alors justement, c'est pour ça que le groupe dioïque est beaucoup, beaucoup plus petit. Je vais donner quelques exemples pour les connaisseurs, parce qu'on a tous entendu parler une fois ou l'autre que quand tu veux planter un kiwi, par exemple, eh bien, il faut planter un mâle et une femelle. On a le même procédé dans une plante qui est très, très connue dans nos forêts, c'est le houx. Le houx, bien sûr, on a des houx en hiver, où c'est qu'on va trouver des boules rouges sur un houx, donc c'est la plante femelle. Et puis pour avoir eu ces graines, bien, il y a dû avoir une plante mâle qui était dans les environs, en proximité de cette plante. Donc on a vraiment peu de plantes qui sont dioïques, donc qui ne sont qu'une plante porteuse d'un seul sexe. Donc c'est le houx, c'est le kiwi, c'est les orties par exemple, les orties communes qu'on trouve aussi facilement dans nos forêts. Eh bien, c'est une plante qui, vous verrez, a des places des orties qui sont pleines de fleurs, et à d'autres places, les orties, on dirait qu'ils n'ont pas de fleurs, que c'est beaucoup plus discret. Donc c'est une grande différence. Et puis bien sûr, il y a après un grand, grand arbre qui est connu, qu'on a eu cité dans une émission antérieure quand on parlait des grands conifères qui perdent leur feuillage, dont je pense que Mylène se souvient encore le terme, qui était aussi un terme un peu botanique.
Oh, comme vous me prenez de court, Olivier, caduc ? Non, c'était pas ça.
Non, c'était les persistants.
Oui, les persistants.
Les caducs, moi j'étais parti sur autre chose. Mais c'était bien sûr le Jimco biloba.
Voilà, c'était ça.
Qui est une plante aussi qui est unisexe. Donc c'est une plante que, quand on les plante, on fait attention de planter justement une plante qui ne portera pas les fruits, parce que le fruit a une odeur très désagréable. Donc c'est vraiment un petit groupe de plantes, mais qui pouvait être relevé une fois en discussion à cette antenne.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy. On parle de botanique ce matin, et plus précisément de plantes monoïques et dioïques. Alors monoïque, c'est une plante qui est composée de fleurs mâles et femelles réunies sur le même pied, tandis que les dioïques, ce sont des plantes composées de fleurs mâles ou femelles sur des pieds différents. La plante est donc soit composée de fleurs mâles ou de fleurs femelles.
Mais alors Olivier, pourquoi est-ce que c'est important de savoir si notre plante est monoïque ou dioïque ?
Alors le fait de savoir pourquoi, c'est déjà de comprendre assez simplement que quand on plante, surtout les plantes qui sont qu'avec un seul sexe, c'est qu'il faut mettre un mâle et une femelle. C'est un petit peu la base de cette différence. C'est juste déjà pour savoir ça. Après, bien sûr, quand on regarde une plante, une fleur à l'état normal, on se pose jamais trop cette question, parce qu'on sait très bien que elle va fleurir, elle va faire cette pollinisation qui va être faite, et puis qu'après, eh bien, on aura l'occasion de voir éclore une à la fin de la floraison une graine qui pourra être réutilisée pour reproduire ces plantes naturellement.
Du coup, Olivier, est-ce qu'il y a des défis particuliers quand on plante des plantes dioïques, comme par exemple pour les citer, c'est un organe, une femelle, et j'ai noté, c'est par exemple le kiwi, on doit faire attention.
Oui, alors justement, c'est par rapport au. On prendra l'exemple du kiwi, c'est un des plus beaux exemples, mais il y a le hou aussi qui est comme ça. Ça veut dire qu'on va être obligé de planter de toute manière une plante mâle. Malheureusement, on ne sera pas obligé de mettre qu'un seul femelle. On peut mettre plusieurs femelles avec la plante mâle. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va avoir dans une culture de kiwi ou dans une forêt. On va avoir, il y aura une plante mâle qui se retrouvera en plein milieu d'une autre partie de végétaux, c'est qu'ils seront beaucoup plus nombreux. Donc, il n'y a pas une règle de 1 à 1 ou comme ça. C'est ça, juste ça la différence. Après, il faut savoir que ces plantes sont pollinisées, bien sûr, un petit peu comme la grande partie des plantes sur Terre, donc soit par un insecte, les abeilles ou autres, mais il y a aussi le vent qui joue un grand rôle sur ces pollinisateurs dans nos forêts. Si je prends un exemple, on a une plante qui est un petit peu particulière dans la forêt parce que on va rester un petit peu plus dans l'état naturel. Donc, les frênes qu'on trouve en forêt, depuis plusieurs années, on a observé, il y a eu des recherches qui ont été faites par de grands arboretums de végétaux en Europe. C'est que le frêne peut changer sur la même plante. On peut retrouver des parties de fleurs qui se sont transformées, puis qui n'ont plus qu'une seule partie, donc plus qu'un seul sexe. Et puis, sur la même plante, on peut retrouver des fleurs qui ne sont que mâles. Il faut savoir que tous ces grands arbres de forêt, le chêne, le hêtre, le mélèze, le pin, le sapin, c'est des arbres qui sont pollinisés en grand nombre par le vent. Donc ça veut dire que le pollen va se retrouver assez facilement sur des parties de fleurs femelles. Donc c'est vraiment des particularités, mais le frêne peut être un petit peu un arbre un tout petit peu spécial parce qu'on arrive gentiment à observer cet effet naturel où c'est que l'arbre a des parties mâles et des parties femelles sur le même végétaux. Donc c'est encore un petit peu différent, mais c'est vraiment des exceptions.
Les jardinières.
Parle jardinage jusqu'à 8h en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste et propriétaire d'Olivier Pépiniériste à Porrentruy. Olivier, on parle de plantes monoïques et dioïques ce matin. Vous allez bien sûr aussi prendre le temps de répondre aux questions de nos auditeurs.
Et pour poser vos questions, vous pouvez nous appeler au 0900 170 2020 et vous aurez la chance de parler en direct avec notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire disponible sur notre site et joindre une photo à votre question. Ou alors nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
On parle donc de plantes monoïques, c'est ces plantes qui sont composées de fleurs mâles et femelles réunies sur un même pied, comme par exemple les roses, les sapins, les hêtres, les chênes. Et puis les plantes dioïques, c'est ces plantes composées de fleurs mâles ou femelles sur des pieds différents. Et là, il y a moins d'exemples, mais il y en a des connus comme le kiwi, le hou ou l'ortie commune ou le ginkgo biloba. C'est juste?
Bien, biloba, c'est ça.
Olivier, on parle de pollinisation de ces plantes. On va parler cette fois-ci des plantes monoïques. Est-ce qu'il faut avoir une attention particulière pour la pollinisation de ces plantes?
Oui,
donc, des plantes monoïques, les roses, les fleurs. Voilà.
Alors, la plante monoïque, c'est mono. Je rappelle, donc c'est pas la rose, c'est le hou. Donc c'est le dioïque, c'est les deux sexes. Donc c'est la rose, c'est une dioïque. Donc on va aussi l'appeler hermaphrodite pour ceux qui ont aussi eu l'occasion d'étudier ça un peu à l'école en botanique. Donc une plante hermaphrodite, c'est un petit peu, c'est la même chose que dioïque. Donc elle a aussi ses deux sexes sur la même plante. Donc on ne se pose pas trop de questions, ça se fait naturellement, surtout dans notre région. Eh bien, les pollinisations se font par les voies naturelles, les abeilles, bien sûr, en tout premier. Et puis après, avant, comme on l'a dit, le vent, les courants font que les pollinisateurs et les pollinisations se font naturellement. Mais je te répète de nouveau, monoïque, c'est une plante qui n'a qu'un seul sexe sur la plante.
Et du coup, pour les autres?
Alors pour les autres, on ne fait pas non plus d'efforts particuliers. On voit le houx en forêt, ça se fait naturellement. Pourquoi on retrouve assez peu de grains rouges sur du houx, par exemple? Ça n'a rien à voir avec la pollinisation, ça a plutôt à voir avec les effets naturels de la météo. Ça veut dire que soit ben, il n'y a pas eu assez de floraison à une période où c'était favorable, parce que le houx va fleurir assez rapidement donc, dans la saison. Donc on peut se retrouver dans des périodes où c'est que la floraison aura gelé, ou bien, aussi bien pour la plante femelle que pour la plante mâle. Maintenant, j'ai encore une autre petite explication à te donner par rapport à ces plantes, pour ne pas tout mélanger. On entend souvent parler de la vanille. Les gens ont tous été voyager une fois ou l'autre dans des régions. On dit toujours que la vanille, on va la polliniser naturellement à la main. Il faut savoir que la vanille est une plante dioïque, donc il y a les deux sexes sur la même plante. Et on va trouver la vanille à l'état naturel à l'origine qu'au Mexique. Et au Mexique, elle est pollinisée toujours par une abeille qui s'appelle la Melipona. Donc c'est une abeille bien particulière. Donc il faut un pollinisateur bien particulier pour certaines plantes dont la vanille en fait partie. Mais on retrouve des vanilles maintenant sur d'autres continents, donc Madagascar ou autres. Et la vanille, elle est pollinisée par la voie naturelle, par l'eau. Donc c'est nous qu'on doit la polliniser. Donc c'est fait à la main, parce que cette abeille n'existe pas dans ces pays-là. Donc elle a été introduite comme plante, et après on a découvert que la fleur était très particulière, parce que pour atteindre l'ovaire, donc le pollen devait passer par un endroit qui est très compliqué, et puis qu'il y avait une petite pellicule qu'il fallait franchir. Alors c'est l'homme qui le fait à l'aide d'un petit bâtonnet, et puis qu'on arrive à polliniser les plantes vanille, donc qui est une orchidée bien sûr, pour pouvoir avoir à la fin une gousse, donc après la floraison, qu'on ait une gousse de vanille. Donc c'est vraiment des particularités qu'on a mis du temps, ou à certains endroits, à comprendre. Mais je dirais que pour la plus grande partie des plantes dans notre région, tu as parlé des roses, on va parler des arbres fruitiers maintenant, encore en floraison quand on aura au printemps. Donc on ne se pose pas de questions, on a nos petites abeilles et nos insectes qui vont faire tout ça, qui vont amener les parties mâles, donc le pollen, vont amener ça sur la partie du pistil pour atteindre l'ovaire. Donc c'est des choses qui se font tout à fait naturellement.
Donc si maintenant j'ai deux kiwis dans mon jardin, deux arbres donc à kiwis dans mon jardin, et que ça me donne pas de fruits, c'est pas forcément le problème de la pollinisation.
Non, alors tout à fait. Le problème, c'est des plantes quand même très particulières, surtout le kiwi aussi, qui est une plante qui est introduite dans notre région en Europe depuis quelques années, mais qui peut souffrir au moment de la floraison, justement que les parties femelles ou les parties mâles souffriront du froid, parce que c'est des parties, bien sûr, délicates, comme on le sait tous, même à l'état naturel de l'humain. Donc c'est des choses qui peuvent être vite mises à rude épreuve sous le froid, et le kiwi ne portera pas de fruits. Mais sinon, il n'y a pas d'autres particularités pour ces plantes.
Et puis, Olivier, une dernière question. Si les plantes monoïques ou dioïques ne sont pas en fleurs, par exemple, je pense au kiwi toujours, hein, c'est vraiment l'exemple, ou le houx, est-ce que si vous les voyez maintenant, en automne ou en hiver, est-ce que vous pouvez dire, ah, ça c'est un mâle, ça c'est une femelle, ou il n'y a pas de truc visuel?
Alors pour des professionnels, on arrive à reconnaître des plantes mâles ou femelles, c'est très difficile, mais il y a le kiwi par exemple, une plante mâle sera beaucoup plus croissante, beaucoup plus grande, beaucoup plus développée. Le houx, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué, on va le reconnaître seulement à l'époque de la floraison, parce que le feuillage peut être différent sur les deux plantes, c'est pas toujours très facile, mais au moment de la floraison, oui, bien sûr, on peut les reconnaître sans forcément aller voir à l'intérieur de la fleur, mais c'est à ces périodes-là qui sont le plus facile de les reconnaître.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On va répondre à vos questions, puis peut-être rappeler, Brian, comment faire pour nous joindre.
Et oui, vous avez toujours trois possibilités. La première, c'est par téléphone. Vous nous appelez au 0900 70 20 20 et vous aurez la chance de parler en direct à notre spécialiste. Vous avez aussi la possibilité du formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Et vous aurez cette fois la chance de joindre une photo. Et puis troisième possibilité, par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question. Vous terminez par votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
On a reçu une question de Véronique de Bressaucourt qui nous dit « Je récolte mes poires conférences à la mi-septembre, directement cueillies sur l'arbre et mises en cave. Malheureusement, au bout de 3-4 semaines, elles pourrissent toutes. Dois-je les récolter encore plus tôt ?» Merci de votre réponse et bonne journée. Alors Olivier, est-ce que vous pouvez aider Véronique ?
Alors oui, je pourrais un peu l'aider. Il faut savoir que quand même les poiriers dans notre région sont des arbres fruitiers qui donnent bien. La problématique de la poire, c'est vrai que c'est pas une poire qui se conserve facilement. Après, il y a le procédé de conservation dans une cave. Bien sûr, c'est là qu'elle ne nous donne pas beaucoup de détails. La conférence est une poire tardive, donc mais quand elle dit déjà qu'elle la récolte à la mi-septembre, je dirais déjà presque, moi je les récolterai presque plus tard, ça veut dire qu'elle est déjà bien avancée, donc elle est déjà dans une situation peut-être bien exposée, bien ensoleillée. Donc bien sûr, on va observer le moment de récolte d'un fruit, de la poire, quand il est encore pas trop mûr justement, quand il est encore dans un état où c'est qu'il est pas fini, donc on pourrait dire c'est à ce moment-là qu'il faut le récolter. Il y a un petit truc aussi, on va couper une poire en deux, on va regarder si les pépins, plus ils seront sombres, plus ils seront foncés, plus on va dire que la poire est mûre. Donc c'est par rapport à le pépin, la graine du fruit, s'il est déjà bien brun, bien foncé, bien noir, ça veut dire que le fruit est déjà bien avancé. C'est un petit peu la base pour la poire et la pomme. Si les pépins sont verts, ça veut dire qu'elle n'est encore pas du tout mûre. Donc essayez de ne pas les récolter trop tard. On a vu dans les châteaux, les jardins ancestrales, on mettait les poires dans des caves sur des rayonnages l'une à côté de l'autre, pas l'une sur l'autre, pour que justement la conservation. On a vu des récoltes aussi dans ces châteaux. On trempe la poire, la queue de la poire, on va la tremper dans de la cire de bougie pour justement fermer le bout de la tige pour que ne s'évapore pas trop d'humidité par cet endroit. Donc mettre de la cire sur la queue de la poire, les mettre l'une à côté de l'autre, les mettre dans un endroit très frais, mais ben non plus, on sait qu'on est en septembre, octobre, donc on peut trouver des bonnes caves, mais conserver des poires, c'est pas facile si on n'a pas une chambre froide ou un bon frigo, je dirais. Excusez-moi.
Merci beaucoup, Olivier.
Voilà, oui. Pas de soucis, vas-y.
On va enchaîner avec une deuxième question rapidement. Une question qui nous vient de Gisèle de Cernier. Comment ôter les cochenilles de mes citronniers? Ils n'ont bientôt plus de feuilles et ils se trouvent dans une véranda non chauffée. J'ai tout essayé, produits du commerce et savon noir.
Oui, alors justement, on revient un petit peu sur cette petite explication que j'ai eue en tout début d'émission, parce que ça m'a aussi choqué chez un client. Toutes ces plantes qu'on a rentrées tôt, peut-être déjà trop tôt en automne, on a rentré avec des larves d'insectes, bien sûr, que ce soit des cochenilles, que ce soit des araignées rouges ou autres, et on les a mis dans un endroit chaud, sec, une véranda magnifique, il fait bon, donc la larve de ce parasite s'est développée. Utiliser que des produits qu'on trouve dans le commerce, oui, c'est compliqué. Je n'ose pas critiquer ces produits, mais il faut savoir que les produits ne sont plus très forts, donc on les trouve facilement. Donc si on utilise ces produits, il faut les utiliser sur des cochenilles qui sont très jeunes, donc qui viennent de se développer. Donc je pense à l'état où elle s'en est rendue compte, les cochenilles étaient déjà adultes, donc ils sont beaucoup plus difficiles à combattre, donc c'est pas facile. Il y a des mécanismes naturels, ça veut dire que son citronnier, comme je l'ai dit au début d'émission, elle peut le mettre dans un endroit plus frais ou carrément à la pluie, si on a une belle journée ou deux pendant une semaine de temps qui pleut, donc la journée, le mettre à la pluie. Ces pluies qui sont, je ne veux pas dire acides, mais qui sont de la pluie naturelle, ça va aider à combattre ces cochenilles qui sont développées dans un petit cocon douillet où c'est qu'il faisait chaud. Donc ça va laver ces cochenilles. Et puis quand elle aura une semaine, deux semaines de pluie sur ces plantes, prendre du coton, de la ouate pour essuyer ses feuilles, pour les éliminer. Parce que suite au cochenille, il est venu forcément, sûrement, de la fumagine. C'est cette pellicule noire qu'on retrouve sur les feuilles ou qu'on va retrouver sous le citronnier par terre. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est le miella de la cochenille. C'est quelque chose qui est difficile à combattre. Mais tout ça, c'est venu parce que c'est des cochenilles adultes. Puis maintenant, elles sont vraiment adultes et costaudes en serre. Donc, pour s'en défaire, c'est ces éléments-là le plus simple. Et remettre au plus vite son citronnier à l'extérieur pour que la pluie, la nature fasse que ces cochenilles disparaissent. Et puis faire attention l'année prochaine, quand elle rentrera, d'observer justement ou de faire ces traitements qu'elle a utilisés, savon noir ou produits du commerce, les faire une semaine, deux semaines avant de rentrer son citronnier pour combattre ces éventuels parasites qui peuvent éclore et puis se multiplier avec beaucoup d'aisance dans ces petits endroits où c'est qu'on mettra ces plantes d'hivernage.
7h, 8h, les jardinières.
Il est déjà 7h54 chez les jardinières. On a encore le temps, Olivier, pour poser ces deux dernières questions qu'on a reçues. Une de Pierre de la Ferrière qui nous dit « Quand faut-il tailler les rosiers et comment ?»
Alors quand c'est encore un tout petit peu tôt, à mon avis, je dirais professionnellement, on va tailler les rosiers mi-mars, fin mars, même s'ils ont déjà un petit peu bougé, ils ont un petit peu débourré, donc on va faire ça plus tard. Même s'il y a déjà des beaux bourgeons, c'est pas grave, et on va bien sûr tailler assez fortement un rosier à cette période, le rabattre pour justement, plus on taillera court, plus il va repousser pour avoir des belles tiges fortes pour y retrouver des belles grandes roses. Parce que si on taille trop long, donc on laisse trop de vieux bois, les tiges qui pousseront seront plus fines, plus petites, et puis les fleurs seront aussi plus petites. En sachant que quand on taille un rosier, pour qu'il puisse pousser, il faut lui amener les éléments nécessaires pour lui donner la chance de faire des belles tiges. Donc renourrir son sol avec un engrais ou un fumier ou un compost après la taille, bien sûr.
Et puis Olivier, cette dernière question, bonjour, mes géraniums sont restés sur la terrasse, celle-ci est abritée, ils ont continué à fleurir, certaines têtes ont séché mais d'autres sont encore belles, est-ce ok ou faudrait-il que je les force à une pause pour autant que ce soit possible? Merci, alors cette question pour vous Olivier assez rapidement.
Oui, alors c'est un très bon sujet qui mériterait une émission complète à discuter sur ça. Je laisse Mylène faire une petite recherche sur la vernalisation pour une de ses prochaines émissions, mais elle va juste nettoyer les parties sèches, elle va essayer de leur faire une petite période de repos en limitant les arrosages, elle n'est pas obligée de trop arroser, les garder encore un moment au frais et puis après les relancer en végétation, donc la chaleur naturelle de sa véranda, et elle aura une belle récolte, une belle floraison pendant cet été. Et après, il faudra qu'elle fasse une période de repos l'année prochaine à sa plante, dont on en parlera dans une de ses futures émissions.
Nous parlerons donc de vernalisation. Merci beaucoup Olivier Ribaud. On rappelle que vous êtes pépiniériste et propriétaire d'Olivier Ribaud. Pépiniériste à Port-en-Truy. Voilà, je vais y arriver. Je vous souhaite un bon week-end.
Ben, je te remercie beaucoup et puis à tout bientôt. Oui, bon week-end.
Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous à la semaine prochaine.
7h, 8h, les jardinières.